Vivacité, ma radio complicité. La vie du bon côté sur Vivacité.
Bienvenue en ce lundi, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très beau week-end. La poignée de main, on va commencer par là, parlons des choses les plus simples. La poignée de main, quand on parle du langage du corps, un geste anodin du quotidien, vous allez me dire. Bah, pas si anodin que ça, pas si innocent que ça. Elle est considérée, cette poignée de main, comme un des incontournables du body language, le langage du corps. La poignée de main révèle en effet parfois beaucoup de choses. Elle révèle une première impression et concernant les premières impressions, quel message votre corps envoie-t-il à votre interlocuteur? Vous êtes-vous déjà posé la question? Ce que vous vivez, ce que vous croyez est en effet perçu par votre interlocuteur de façon consciente, mais aussi inconsciente. Comment donnez-vous la main? 070 23 33 23, SMS 30 63. Que ressentez-vous dans certaines poignées de main? Pour certains, tout est déjà dit lorsque vous serrez la main de quelqu'un. Venez nous dire si vous êtes en effet très conscient de ce qui passe quand vous échangez une poignée de main. Que vous inspire une main fouillante, une main moite ou au contraire une main très ferme? Savez-vous que votre corps vous révèle et même vous trahit? Il en dit bien plus long que les mots que vous prononcez. Bref, on va parler de tout cela en compagnie de Marie-Pierre Preud'homme, praticienne en PNL. La PNL, la programmation neurolinguistique, on va en parler peut-être beaucoup aujourd'hui puisqu'elle utilise certaines techniques, utilise l'observation de ce langage du corps. Vous êtes aussi praticienne en thérapie brève dont l'hypnose et l'EFT. Marie-Pierre, commençons par le commencement. J'aimerais vous demander d'où vient le langage du corps, le body language. Ça vient d'où ?
Le body language nous vient en fait des profondeurs de notre inconscient. Donc, on s'est intéressé en fait au langage du corps dans les années 70. Il y a un livre qui a été écrit par Julius Fast. Ce monsieur Julius Fast, en fait, il a résumé des recherches scientifiques qui ont été menées, ou plutôt remenées, dans les années 60. Mais avant ça, il y a eu tous les travaux de Charles Darwin, dont le célèbre l'expression des émotions des hommes et des animaux en 1872, où il y avait déjà ce décodage et cette observation de toute cette expression des émotions. Alors, nous sommes quand même avant tout des animaux et il y a beaucoup de choses qui nous échappent, qui sont en fait de l'ordre du réflexe. Et donc, ce qu'on appelle le langage du corps, en fait, c'est ce qui vient en tant que réflexe de manifestation corporelle. Donc, une émotion va générer un état physiologique et cet état physiologique va être perceptible. Et donc, quand on a repris les travaux de Charles Darwin, ça a été remis à jour, on a refait des expériences, on a voulu vraiment réexpérimenter et revérifier, en fait. Mais hors de ces vérifications-là, sont sorties, en fait, quelques observations. Ce n'est pas une science exacte. Oui. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut voir comme étant, voilà, si une personne fait ça, égale.
C'est interprété comme ça.
Mais néanmoins, ça donne des indications qu'il se produit quelque chose au niveau des émotions, au niveau du corps. Ce qu'on sait au niveau du corps, au niveau de l'importance que ça, en fait, ce message qu'on transmet par le corps, c'est que c'est très, c'est ça qui est en fait la majorité du message.
Ouais.
Donc, en termes de ce qu'on perçoit de quelqu'un, ben tiens, quand quelqu'un nous raconte quelque chose et on peut se dire, ben oui, c'est vrai, ce n'est pas vrai, ou je sens que ça passe, ou simplement ça m'influence ou ça ne m'influence pas. Quelle proportion, en fait, vous vous dites que les mots ont dans l'importance du message?
On est en plein dans le mentaliste, là, non?
Exact. Oui, tout à fait.
On aura
Light
peut-être l'occasion de dire. Ah oui, c'est ça.
Ouais,
hein.
C'est ça. Oui. C'est,
je me souviens quand cette série est arrivée, ça a été en effet aussi, je sais pas, une façon d'entrevoir tout ça et de se dire, ah bah oui, le langage du corps. On a fait des émissions, des documentaires là-dessus en disant, on s'est peut-être pas intéressé assez au langage du corps. Bref, vous avez compris. Langage du corps maintenant, comme ça, de quoi passer peut-être peut-être un bel été en décortiquant les choses, en observant mieux les choses, puisqu'on se place des deux côtés. Comment utiliser au mieux ce langage du corps, mais comment décoder aussi au mieux le langage du corps de la personne qui est en face de vous. Le langage du corps, le body language. Vous venez de bâiller, Marie-Pierre Prédhomme. Oui. Ça veut dire quoi, ça? Comment est-ce que je dois interpréter ça, le fait que vous venez de bâiller?
Que je suis en pleine détente. Que je suis bien ici, toute détendue, et donc je baille.
Oui. Vous oxygénez votre cerveau,
voilà,
c'est souvent
tout à fait,
ce qu'on dit.
Oui.
Voilà, c'est drôle. Parce qu'en plus, vous l'avez fait inconsciemment, quoi, sans vous en rendre compte.
Tout à fait, oui.
Et sans surtout vous dire que j'allais vous voir.
Voilà, oui, je croyais être très discrètement cachée derrière le micro.
Bon, le langage du corps, on en parle aujourd'hui. Les regards, les poignées de main, les choses qu'on fait inconsciemment. Regardez, moi, je suis en train toujours de parler avec les mains aussi. Ça ne se voit pas derrière le micro, mais je mets de l'énergie dans les mots que j'emploie. Ça passe par les mains aussi. 070 23 33 23. SMS 30 63. Est-ce que vous êtes déjà intéressé à ce sujet? Est-ce que vous avez entendu dire des choses à ce sujet? Ou est-ce que vous pratiquez ou vous décodez? Venez nous parler de tout ça.
Jusqu'à 15h30 sur Vivacité, la vie du bon côté avec Sylvie Honoré.
Et Marie-Pierre Prédhomme, praticienne en PNL, on parlera de la PNL, la programmation neuro-linguistique d'une certaine façon tout au long de cette émission. On parle du langage du corps aujourd'hui, la poignée de main, le regard, les gestes qu'on fait inconsciemment. Sur la page Facebook de Vivacité, la vie du bon côté, sur notre page Facebook, Marie-Pierre, nous avons mis en ligne une question qui reste et donc il est encore possible et il est surtout souhaitable que vous alliez cliquer sur la réponse qui vous plaît le plus, que vous ressentez le plus. La question, c'est êtes-vous conscient que notre corps, nos mimiques, nos gestes peuvent nous trahir et révéler notre état d'esprit? Peuvent nous trahir et révéler notre état d'esprit. Pour le moment, on a le plus cliqué sur la proposition « Je pense que le regard est très révélateur ». Donc c'est une histoire de regard. Ensuite, juste après, une poignée de main bien ferme me rassure sur mon interlocuteur. On me dit souvent que je parle avec les mains, c'est aussi une proposition qui a été faite. Ou enfin, je croise toujours les jambes, serait-ce par pudeur. Je vous lirai dans quelques instants un SMS que nous avons reçu par rapport à la poignée de main, qu'elle soit molle ou qu'elle soit plus ferme, est-ce que ça traduit quelque chose? La répartition tout d'abord, Marie-Pierre, faisons encore un petit peu plus de théorie. Qu'est-ce qu'on attribue au verbal? Qu'est-ce qu'on attribue au non-verbal?
Alors, d'après Albert Mehrabian, qui est professeur de psychologie à l'Université de Californie et qui est une vraiment des références en matière d'études d'impact de la communication verbale et non verbale, il y a cette fameuse règle des 7-38-55.
Donc je divise ou je multiplie, ça veut dire
7%. Donc l'impact du message en fait se répartit de la façon suivante: 7% au verbal, donc c'est-à-dire juste les mots, 7%.
7%. Oui.
38% au ton de la voix, à l'inflexion, à la modulation de la voix, au son, et puis 55% au non verbal.
Oh, c'est énorme ça.
Oui.
Je note parce que je vais redire en émission: 7% au verbal.
38
au ton de la voix.
Oh, c'est ça. Tout ce qui est modulation de la voix, la façon dont on pose la voix. Et puis
55% au non-verbal.
Voilà.
C'est dingue.
Oui, c'est assez étonnant de voir l'impact de ces trois points dans notre communication.
Tout à fait. Est-ce qu'on peut y accorder une crédibilité véritable, puisque encore une fois, vous avez dit, c'est de plus en plus ces dernières années que des recherches, des observations ont été faites à ce sujet-là.
Donc, en fait, pour bien resituer l'utilisation du body language, c'est de se dire que ce langage du corps, c'est un langage au même titre que les autres langages. Mmh. Il contient donc des phrases, il contient des syntaxes, il contient des mots. Et comme dans toute phrase, si on retire le mot et qu'on se focalise uniquement sur le mot, on le sort de son contexte et donc on peut lui faire dire tout ce qu'on peut lui faire dire. Un mot a différentes significations. Donc le body language, c'est une étude qui est assez complexe si on veut faire ça vraiment correctement. Mmh. Il y a différents signes qu'il faut associer pour pouvoir comprendre et essayer de comprendre, mais il y a des vérifications par des vérifications qui se font. C'est vraiment cette métaphore de cette idée, c'est un mot dans une phrase. Alors, quelle crédibilité aussi accorder? Toujours voir au niveau contextuel, si quelqu'un ne serre pas la main d'une façon ferme, oui, d'accord. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais si cette personne a de l'arthrose dans la main,
oui, bien
ou
sûr,
si cette personne est un chirurgien et que sa main est quelque chose de très très précieux pour son travail et pour sa vie, ça va impacter la façon dont il va donner la main.
Mais oui, bien sûr. Mais c'est bien de rebondir parce que je viens de lire un message qui nous est arrivé. Main ferme égale confiance, main molle égale pas sincère. C'est quelque chose qu'on véhicule en effet depuis pas mal de temps, mais vous venez de dire qu'il faut pas accorder un crédit à 100% pour une main molle ou une main
voilà,
ferme.
Voilà, hein, ce n'est pas aussi basique que ça. Et une main ferme, selon l'orientation de la main, ça on le verra plus tard.
Ah bon, carrément.
Il n'y a pas nécessairement que de la bienveillance dedans.
L'orientation de la main ?
L'orientation de la main, oui.
Ça, c'est intéressant. Ça, j'avais jamais entendu parler de ça. Message encore une fois au niveau de la page Facebook par rapport à la main. Fabienne dit, waouh, une heure en plus, déjà super. Je connais des personnes, Sylvie, par rapport au sujet, qui vont se laver les mains devant les personnes dont elles viennent de se serrer la main. De serrer la main, assez humiliant, je pense. Mais ça, c'est autre chose.
Hein, oui,
mais pas leur langage corporel. Mais c'est clair que si on fait ça devant moi, je vais très mal le prendre.
Oui, mais c'est dommage. Je crois que la personne.
C'est plus un toc.
Oui.
Vous avez raison, c'est plus un toc. Olivier nous écrit sur cette même page Facebook, le regard, le sourire, la franchise du cœur, les bras croisés, les jambes croisées, la main sur la bouche sont révélateurs de comportements défensifs. Je suppose qu'il y en a plus. On va l'apprendre sans doute grâce à l'émission. Est-ce qu'on peut aussi classer tout ça dans un...
Voilà. Encore une fois, si vous voyez quelqu'un dans un bus qui est au mois de novembre, je n'oserais pas dire le 24 juillet, le 24 juin, mais quand on est censé être en hiver, que la personne a les bras croisés et les jambes croisées.
Parce qu'elle a froid.
Mais voilà, quoi, simplement. Donc, il y a aussi vraiment remettre dans le contexte et sortir de jugements qui sont hyper catégoriques et déterministes.
Oui, c'est ça. Bon, est-ce que vous êtes déjà interrogé à ce sujet? Sur ce sujet-là, est-ce que vous avez suivi peut-être une formation? Est-ce que vous avez entendu dire des choses? On va confronter ce que vous savez ou ce que vous avez appris avec ce que Marie-Pierre a envie de nous dévoiler aussi aujourd'hui. Est-ce que vous savez vous décoder? Est-ce que vous avez un premier ressenti? Attention, ça je vais souvent les citer quand même. 7% qui passent dans le verbal, 38% dans le ton de la voix et les 55% c'est du non-verbal. On s'intéresse vraiment à ces 55%-là. Est-ce que vous avez un ressenti par rapport à un premier contact physique avec quelqu'un, mais ça peut être un regard, ça peut être une poignée de main, ça peut être une tape sur l'épaule, ça peut être n'importe quoi dans le non-verbal, encore une fois, le geste inconscient qui est posé quand on rencontre une personne. Qu'est-ce que ça peut signifier? Un SMS reçu nous apprend que notre émission, ce body language, lui fait penser à Philippe de Turchet. C'est Philippe Turchet, je pense. Et la synergologie, pourquoi ne pas le citer? Ben voilà, nous le citons parce que nous sommes en train de regarder. J'ignorais vraiment ce mot. Et vous, Marie-Pierre?
Oui, j'avoue, oui, franchement.
La synergologie.
En rentrant m'informer.
Voilà, je ne connaissais absolument pas. Et Philippe Turchet est apparemment le papa de ce langage, enfin, de la synergologie, qui est comprendre son interlocuteur à travers sa gestuelle. Il a écrit un ouvrage sur le sujet. Moi, je connaissais ces deux précédents ouvrages. Les codes inconscients de la séduction. Là aussi, on est vraiment dans le langage du corps. Les codes inconscients de la séduction. Et alors, pourquoi les hommes marchent-ils à la gauche des femmes? Là aussi, c'est peut-être inconsciemment, mais c'est un ouvrage que je n'ai pas lu, mais que j'ai dans ma bibliothèque. C'était deux livres que j'avais reçus de Philippe Turchet. Pardon. Les règles fondatrices de la synergologie ont permis de construire un lexique corporel. Donc il s'agit d'un lexique corporel qui répertorie plus de 250 gestes. À partir d'eux, des attitudes mentales qu'ils représentent sont exprimées, des attitudes inconscientes qui sont sans doute universelles. C'est vrai que c'est un sujet universel, quel que soit le mot que l'on met sur ce langage du corps. La PNL, évidemment, parle de ça aussi. La synergologie. Philippe Turchet, on a appris quelque chose.
Tout à fait.
Absolument. La poignée de main, elle a bon dos. Je dis ça parce que je vois des auditeurs nous parler d'une poignée de main, dos de la main vers le haut, ou bas de la main. Enfin, il y a des choses qui sont déjà décodées par des auditeurs qui apparemment veulent dire des choses par rapport à ça. Marie-Christine, bonjour. Marie-Christine, une fois, deux fois, trois fois, Marie-Christine, ne. Dommage, prof de communication en langage non-verbal. D'ailleurs, elle va rentrer en conseil de classe, donc on m'a demandé de faire vite, parce que sinon on allait la perdre, Marie-Christine. On essaiera de la joindre dans quelques instants. Bon, je lis des messages. Poignée de main, Sylvie, la poignée de main, dos de la main vers le haut. Est-ce que ce n'est pas un signe de rapport de force? Vous dites quoi? Oui, non?
Alors, l'orientation, en fait.
L'orientation de la main.
De la main, quand on se serre la main, va être indicatrice de la relation entre personnes. Donc, par exemple, on va essayer de décrire ça. Hein. Je me suis dit, mais quel défi le body language à la radio?
C'est sûr.
Donc, si les mains, en fait.
On regarde nos mains. Pendant que vous parlez, on regarde nos mains.
Si les mains dans la poignée de main se font miroir, là, on est dans une relation d'égal à égal.
Qu'est-ce que vous appelez miroir ?
Je vous montre.
Mais oui, montrez-moi.
C'est vraiment.
On sera deux à décrire comme ça.
Les mains qui se rencontrent, et elles sont l'une face à l'autre, elles sont parallèles au sol et elles se font miroir.
Oui, hein ? À la verticale. Elles sont verticales, là, nos mains.
Elles sont verticales, je les vois plutôt horizontales, mais.
Horizontales.
Ah oui, d'accord, je comprends. Oui, c'est ça, une poignée de main, la tranche de main. C'est ça, elles sont verticales, les paumes se font face, et c'est un peu comme si elles se faisaient miroir. Mais ça, c'est une poignée de main,
bonjour.
Sympa.
Bonjour. Là, c'est sympa.
Ça, c'est sympa.
Je ne serrais pas trop, moi non plus, je ne serre pas là. Hein.
Voilà,
ça, en général, je serre un peu plus fort.
Ça, c'est d'égal à égal au niveau de la position de la main. Par contre, s'il y a une main qui vient englober l'autre et vraiment se mettre comme si elle voulait l'envahir. Là, on est dans une idée plus de domination, de tentative de domination.
Ah.
Et donc, pour parer à ça, observer certaines vidéos de Obama.
Oui. Oui.
Que fait-il? Eh bien, en fait, son autre main vient gentiment, je crois, se rattraper son interlocuteur plus haut sur le bras. Et là, il y a un message qui est, mais tu sais, c'est moi qui ai la main sur toi.
C'est vrai? Ça a été décodé, ça?
Ça a été décodé, oui, tout à fait.
Il fait ça tout le temps avec tout le monde?
Non, pas tout le temps.
C'est moi qui ai la main sur toi.
Voilà, mais quand il y a une perception de, tiens, l'autre essaye de me dominer dans la poignée de main, une façon de sortir de ça, parce qu'il y en a plusieurs, c'est revenir avec la main qui vient sur le bras ou même sur l'épaule. J'irai plus loin dans cette explication. Là, ici, on rentre en fait dans la zone d'intimité de la personne quand on fait ça. Et il y a quelque chose qui se passe au niveau de la déstabilisation et même d'un message de soumission. Mais on reviendra un petit peu plus loin là-dessus.
Oui. Marie-Christine, vous êtes là maintenant.
Oui, bonjour
Marie-Christine. Pas encore entrée en conseil de classe.
Non, pas encore, dans quelques minutes.
D'accord. Prof de communication en langage non-verbal.
Oui, la synergologie.
La synergologie?
Oui.
C'est ça. Mais écoutez, je ne connaissais pas ce mot.
Ah, moi je l'ai appris au fil de mes cours.
Ok, je ne connaissais absolument pas. Vous donnez cours où, Marie-Christine?
Alors, je donne cours de langage non-verbal à des futurs agents commerciaux, si je peux me permettre, à Nifapie et à Mons.
Oui.
Et en promotion sociale à l'école de Hornu, au niveau des futurs enseignants pratiques de la communication.
C'est quelque chose qui intéresse.
Oui, et c'est quelque chose qui est important, surtout au niveau de la vente, du commerce, mais néanmoins au niveau de la communication didactique dans sa classe. Parce qu'évidemment, nous sommes le point de mire devant nos étudiants. Voilà.
Ah oui, ça c'est clair. Quand vous leur avez tout appris, vous devez faire attention
à votre
attitude non verbale. Absolument. Qu'est-ce qui est enseigné en premier lieu, Marie-Christine?
Alors en premier lieu, moi j'étudie la proxémie, les distances, principalement dans la classe et bien sûr vis-à-vis de la clientèle que les agents commerciaux vont aborder. Et ensuite j'étudie les gestes, mais néanmoins je passe également en revue les différents accessoires tels que les sacs à main, les chaussures, la façon de tenir sa cigarette, les bracelets, les piercings, les tatouages, etc.
D'accord. Oui, c'est assez surprenant. Le sac à main, attendez. Le sac à main, ça veut dire la façon dont on tient son sac à main.
Oui, et alors aussi l'intérieur du sac à main est révélateur de la personnalité de la dame ou du monsieur.
Oui, ça c'est encore aller plus loin. Piercing, tatouage, là aussi, on peut vraiment dire que ça revient. On peut faire des généralités par rapport à ça?
Oui, mais je dis toujours à mes étudiants, comme votre invité l'a spécifié, il faut relativiser.
Oui,
systématiquement, on croise les bras dans le même sens. Moi, je fais faire les exercices à l'envers par les étudiants, donc de décroiser les bras ou de les croiser dans le sens inverse. c'est un geste, bien sûr, de protection, mais parfois, ça peut être fait de façon instinctive. Donc, moi, je dis, voilà les gestes, voilà ce que nous étudie, mais relativisons de oui. grâce. Ne portez pas de jugement ni de préjugés.
Absolument. Le sac à main, je reviens. Oui. On pourrait faire une émission là-dessus. Le sac à main.
Ah, pourquoi pas, quand on m'inviter.
Oui, ben c'est vrai. Quand on le porte en bandoulière, parce que moi, je le porte en bandoulière, quand je suis pressée, quand oui. je... Vous voyez, pour pas que ça ballotte un peu. Sinon, en général, je l'ai le long de la, le long du bras. Ça aussi, oui. on peut donner une
oui.
définition.
Pour ça, je vais faire référence de l'analyse des accessoires de Joseph Messinger, un beau livre que je vous conseille et qui là est très révélateur de tous les accessoires et des objets, quoi.
Voilà. Vous me demandez de lire le bouquin, quoi.
Pour savoir oui, un petit peu plus.
Mais oui, justement, je me demandais ce que j'allais lire. Bon, Marie-Christine, voilà. Merci. C'est vrai qu'on pourrait faire une émission avec vous parce qu'il y a pas mal oui. de choses à dire et surtout de se dire que ça dépasse le non-verbal. Imaginez la façon de tenir la cigarette, le sac à main.
Le sac à main et tous les autres accessoires. En fait, c'est chouette que Marie-Christine ait lancé cette notion-là. Ce qu'on a remarqué, c'est que le fait de tenir un objet à deux mains alors qu'on saurait le tenir
à une main
est indicateur d'insécurité et de manque de confiance en soi.
D'accord. Et on va vraiment en apprendre davantage hein, aujourd'hui sur notre façon, comme vous dites, de tenir les objets ou encore une fois de donner la main. On reviendra sur Obama parce que ça m'intéresse aussi sa poignée de main, Obama.
De 13h à 15h30 sur Vivacité, la vie du bon côté. Avec Sylvie Honoré.
Et Marie-Pierre Preud'homme, praticienne en PNL, praticienne en thérapie brève, notamment nous parlons du langage du corps aujourd'hui. 30-63 pour vos messages. Et justement, un message concernant l'intuition, un mot qu'on n'a pas encore prononcé dans cette première heure, et pourtant il va revenir, je pense, par la suite. Bonjour. Ressenti physique, oui, je ressens très vite si la personne est bien dans sa peau ou non. Ce jour-là, en tout cas, j'ai souvent mis cela sur le compte de l'intuition. Est-ce qu'on peut faire un parallèle? Belle émission, merci. Marie-Pierre.
Oui, on peut faire un parallèle, on pourrait se dire que l'intuition est en fait un match, une comparaison qu'on fait très rapide entre ce qu'une personne nous dit ou veut nous laisser paraître et ce qui émane de son langage corporel. Et donc si les deux sont cohérents, s'il y a une congruence entre les deux, eh bien ok, ça va. Par contre, si quelque chose nous indique... Mais tiens, il y a quelque chose qui ne, dans ce que la personne dit et ce que son corps dit qui n'est pas cohérent, on va dire je ne sens pas cette personne,
ça, ouais,
je ne la sens
fait.
Pas en forme, etc. Et on parle d'intuition féminine qui serait plus développée. Est-ce que vous savez pourquoi ?
Non.
Eh bien, ce serait attribué au fait que la femme qui a eu des enfants a observé le bébé qui ne pouvait pas parler. Et donc, il faut absolument décoder par le corps et par l'expression du bébé ce dont il a besoin, ce qui a exercé l'œil de la femme
wow.
à ce langage corporel. Ce serait une des explications.
D'accord, ça j'avais jamais entendu non plus parler
yes.
de ça. Moi, je savais, hein, de toute façon, je le savais,
oui,
que
oui.
nous avions une intuition beaucoup plus développée, mais j'attribuais ça peut-être à un petit bonus au niveau de notre cerveau.
Mais ce l'est.
Comment ?
Mais ce l'est.
Mais ce l'est, oui, oui, mais ce l'est. Le langage du corps, avec une jolie photo sur la page Facebook, venez répondre vraiment à la question qui vous est posée aujourd'hui. Êtes-vous conscient que notre corps, nos mimiques, nos gestes peuvent nous trahir et révéler notre état d'esprit ? On parle du regard, on parle de la poignée de main. On parle tout simplement des gestes inconscients. Tout à l'heure, Marie-Christine, nous avions sur antenne à parler de la façon de tenir son sac à main, une cigarette en bouche, de croiser les jambes ou non. Bref, la tapote, la petite tape sur l'épaule aussi. Venez nous parler de tout ça. Est-ce que vous en usez de ce langage du corps si vous avez peut-être étudié des choses à ce sujet ou est-ce que vous savez décoder aussi des choses ? Nous parlons aujourd'hui du langage du corps. Tout simplement, puisque c'est vrai, vous allez être amené à parler d'autres langues pendant l'été. Si vous voyagez, bah, c'en est une, et elle est super importante quand on sait que le non-verbal représente 55% dans la communication. Il y a 7% de verbal qui passe, vous imaginez 7% de verbal, 38% c'est le ton de la voix, et 50% c'est le non-verbal, c'est énorme. Nous sommes en train de surfer, Marie-Pierre et moi, sur des sites peut-être, sur Internet, et c'est vrai que quand vous Vous avez parlé d'Obama tout à l'heure, avec la petite tape sur l'épaule, hein, la façon d'englober la main et la petite tape sur l'épaule. À chaque fois que vous tapez un homme politique et voir un petit peu décoder un petit peu son nom verbal, vous arrivez sur DSK. Lui, il a été, à mon avis, mais analysé sous toutes les coutures. Que révèle le nom verbal de DSK, le pauvre? Et je ne sais pas combien de lignes on a déjà écrit sur lui, mais voilà. Et c'est vrai que j'avais vu aussi un reportage par rapport à ça. C'est mimique quand il est quelque part et on décode tout ça. Bon, je vois aussi autre chose de un petit peu plus intéressant. Québécois et français entre joue gauche et joue droite. Avez-vous déjà observé deux Français, c'est joli, se faisant la bise et deux Québécois se faisant la bise? Vous observerez qu'ils ne commencent pas par la même joue. Alors que les Français commencent par embrasser la joue droite dans plus de 80% des cas, les Québécois s'embrassent en commençant par la joue gauche, dans les mêmes proportions. Vous noterez également que les Italiens commencent par la joue gauche, les Suisses par la joue droite. Il n'y a pas de raison culturelle, lis-je toujours, ou religieuse à ça. Il n'est pas non plus question ici de latéralité. Les systèmes d'éducation ne prescrivent pas non plus le choix de la première joue. Alors, la meilleure explication, je continue parce que ça c'est intéressant, la meilleure explication, la plus plausible, semble être hémisphérique. Selon cette théorie, nos choix sont d'abord cérébraux. Les informations ne sont pas traitées par les mêmes zones du cerveau par deux individus différents, face pourtant à la même information, ce qui fait par exemple que démocrates et républicains... Bon là, on est parti sur les Américains, on en revient à la poignée de main d'Obama. Enfin, c'est drôle ça, c'est drôle et c'est bien de parler des Québécois ce jour de leur fête nationale, avec cette émission tout à l'heure spéciale à partir de 18h. Mais voyez, c'est vrai, rien que la façon de tendre sa joue. C'est terrible quoi. Vous dites bonjour à six collègues différents qui suivent, il n'y en a pas un qui va vous tendre la joue de la même façon.
Non, tout à fait. De même que la poignée de main ne sera pas toujours non plus donnée au même endroit par rapport au corps. Donc ça, on peut observer la
poignée
de main.
Si vous la levez haut, c'est ça ?
Au niveau de la distance entre la hanche et le poignet. Oui. Si vous regardez, est-ce que vous tendez la main et que votre bras est déjà hyper tendu, comme si vous alliez vous envoler?
Ah, ça, il y en a, hein. Voilà. Il y en a qui tendent, mais super. Et vous n'osez pas avancer, vous vous dites, voilà. Oh là là, je...
Ou alors, est-ce que ce poignet est très très proche de la hanche de la personne? Et donc, ça, qu'est-ce que ça indique? Ça indique quelle est la zone d'intimité, cette bulle, cette fameuse bulle, cette idée de proxémie où nous avons plusieurs zones, dont la première zone est la zone d'intimité, puis on a la zone personnelle, etc. Eh bien, notre bulle, en fait, qui est déterminée par différents facteurs, entre autres, est-on d'origine citadine ou vient-on d'un environnement rural ? Si on vient d'un environnement rural, eh bien, on aura une bulle qui est beaucoup plus grande, c'est-à-dire on a besoin d'une plus grande distance par rapport aux autres. C'est territorial, parce qu'on est habitué à avoir de grands espaces autour de soi. Et donc la personne qui est d'origine rurale aura une bulle qui va être plus grande et donc aura tendance à éloigner son poignet de sa hanche parce que la poignée de main se donne en zone neutre. Tandis que la personne qui vit en ville et qui vit dans un endroit urbanisé où la densité de population est plutôt dense, eh bien sa bulle d'intimité est beaucoup plus rapprochée. Et donc il va donner sa poignée de main avec le poignet beaucoup plus proche de la hanche.
C'est une question de bulle.
C'est une question,
question de... Je lis le message de Mélanie au 3063. Malheureusement, Mélanie ne s'est pas témoigné sur antenne. Je travaille avec des ados autistes, Sylvie, et notre non-verbal doit faire passer de l'info afin d'être compris. Mon visage est un vrai outil de travail.
C'est ça, et on revient à cette idée d'intuition avec la maman qui doit comprendre ce que l'enfant veut manifester autrement que par des paroles, et dans le cadre de la relation thérapeutique avec l'autiste, mais on est aussi exactement dans un contexte similaire, et de prendre vraiment soin aussi et davantage prendre conscience de qu'est-ce qu'il peut percevoir de mon corps Et donc là, c'est ce que Mélanie relate de son expérience.
Et là aussi, on vous demande de témoigner. Continuez à témoigner. 30 63 070 23 33 23. Comment vous aussi exprimez-vous quelque chose dans le non-verbal? Ou est-ce que vous ressentez quand vous êtes quelque part? On parlera peut-être tout à l'heure et dans quelques instants de quand on est en réunion aussi, la façon dont on se positionne, la façon dont on se tient debout quand on est quelque part. Est-ce que le non-verbal, est-ce que vous faites attention à votre non-verbal? Est-ce que le non-verbal pour vous veut dire beaucoup de choses? Quand on sait encore une fois qu'il représente 55% de la communication. Dans la communication, c'est énorme. 30 63, 50 centimes, votre message, quel que soit ce que vous voulez dire, exprimer aujourd'hui sur le sujet. Et on approche déjà peut-être un autre langage que j'espère vous utiliserez en été. Ce sont des thèmes un petit peu en relation aussi avec l'été qui se prépare, et on ne parle pas nécessairement des personnes qui partent loin ou qui vont ailleurs. Il y a aussi moyen de parler un autre langage chez soi. C'est le langage du corps, c'est le langage corporel, et c'est pour ça qu'on vous donne peut-être les bases aujourd'hui de certaines notions. On vous donne certaines notions de choses qu'il faut savoir, et qu'avec ça, avec cette émission-ci, bah vous irez vous intéresser au sujet. Vous irez lire des livres, parce que beaucoup de personnes nous citent des références de livres, notamment Aude, qui a un livre aussi chez elle, et elle a même peur de l'ouvrir parce qu'elle dit aïe, je vais peut-être trop être influencée par le fait de savoir telle ou telle chose quand je vais rencontrer quelqu'un. Est-ce que vous, Marie-Pierre, puisque vous avez les bases, vous le faites? Est-ce que quand vous allez quelque part, est-ce que vous regardez un petit peu l'attitude des autres?
Oh oui, et au niveau de ma pratique professionnelle.
Vous m'observez?
Ouh là là.
Au niveau de votre pratique professionnelle,
oui,
c'est-à-dire
Mais bon, il y a vraiment des basiques. Quand quelqu'un vous dit, oui c'est vrai, il faut absolument que j'en parle à ma femme.
Et vous
que
savez
sa
qu'il
tête
ne
dit non.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Alors il y a aussi... quelque chose que Freud avait déjà observé, c'est parler du conjoint et puis la personne saisit son doigt avec l'alliance et tout doucement tire l'alliance vers le bout du doigt.
Pas bon.
Ce n'est pas bon.
Ça
non.
N'est pas bon du tout. Bon. Ce n'est pas bon du tout. Et c'est vrai qu'il y a des choses à savoir. On n'est pas là pour décortiquer telle ou telle attitude, simplement dire qu'il y a des observations qui ont été faites. On est aussi dans le domaine du Mentaliste, hein, cette fameuse série qui a autant de succès. Et c'est vrai qu'avec cette série, ben voilà, il y a un mot comme ça qui a été véhiculé par plusieurs personnes et on s'est plus intéressé à la chose.
Jusqu'à 15h30 sur Vivacité. La vie du bon côté avec Sylvie Honoré.
Et Marie-Pierre Preud'homme, je le rappelle, praticienne en PNL. Vous avez parlé de votre travail il y a quelques instants quand vous recevez en consultation, Marie-Pierre.
Oui, c'est ça.
Personnes
en
consultation.
Psychothérapie.
En psychothérapie notamment. Je mettrai votre site internet sur la page Facebook. C'est toujours comme ça qu'on fonctionne. Et je l'ai déjà mis puisque vous êtes déjà venue, Marie-Pierre. Et vous êtes à Esneux. Vous n'avez pas déménagé.
Je reste bien là.
À Esneux. 070 23 33 23 SMS 30 63. C'est dans la région liégeoise. Pour ceux qui ne connaissent pas bien cette région. Là, je lis le message de Aude. Un jour, dit Aude, j'ai acheté Pourquoi les hommes se grattent l'oreille et les femmes tournent leur alliance de ANB Peace. C'est un duo, monsieur, madame Peace ou messieurs Peace. Je l'ai ouvert à plusieurs reprises, mais j'en ai peur. C'est elle qui le mentionnait dans son message. Serais-je atteinte de la peur de savoir? Je suis moi aussi adepte de la poignée de main ferme et du réconfort de la main gauche entre le coude et l'épaule droite de la personne que je respecte. C'est comme Obama, ça. On vient à Obama, alors. La poignée de main ferme et le réconfort de la main gauche, je fais en même temps le geste, entre le coude et l'épaule droite de la personne. Oui, c'est vraiment... T'es mon ami, toi. C'est vraiment...
Oui, sauf que ce n'est pas vraiment tu es mon ami.
Tu te soumets à moi, c'est ça.
C'est ça, plus... quoi. Tu es bien brave.
Tu es bon.
Oui, c'est comme le chien qui remet sa patte devant la jambe de son maître. C'est ça. Hein.
Pas bien.
Oui, c'est...
Donc vous avez quelqu'un qui vous tend la main et qui réconforte la main gauche, dites non, je ne suis pas brave.
Ah,
attention,
oui.
Je sais ce que tu fais, je ne serai pas soumis.
Maintenant, la personne ne sait pas nécessairement ce
qu'elle
fait.
Qu'elle fait ça.
Hein, parce qu'on est dans de l'inconscient.
Oui.
Hein. C'est toute la subtilité de ce qui est aussi étudié et retourné à des fins d'utilisation.
C'est ça, ouais. Je lis le message, un message qui n'est pas signé, la personne ne désire pas témoigner, on le comprend, c'est du domaine du privé. Je travaille depuis peu, Sylvie, avec un collègue assez attirant, mais avec lequel je n'ai eu que des paroles strictement professionnelles. Il me regarde sans cesse dans les yeux dès que je le croise et quand je tourne le dos, des collègues proches remarquent son regard sur moi. Quand je lui pose une question pour mon travail, il approche son visage très très près du mien jusqu'à me faire reculer. Est-ce là un signe de dominance? Il me met mal à l'aise. Comment contrer cela? Quelqu'un, on va prendre ça d'une façon générale, quelqu'un en effet qui approche son visage très près du vôtre quand il vous pose une question. Voilà. Vous n'êtes pas reculé, vous êtes mal à l'aise. Il y a comme un malaise qui s'installe.
C'est ça, il y a comme un malaise qui s'installe. Là, on rentre dans la notion de proxémique. Donc, en fait, on a mis en évidence... C'est un langage du cours.
C'est le siège qui se laisse aller. Et ben vous faites l'émission sur vos jambes debout, voilà.
Tout va bien. Donc, Edward Hall, en fait, c'est un anthropologue américain qui a mis en évidence cette notion d'espace pour l'homme, cette notion de territoire. Et donc, lui, il a créé le mot proxémique. Et donc, il vient avec cette notion de zone et que nous avons différentes zones, ce qu'on appelle la bulle, en fait.
On revient à cette notion de bulle.
Et donc, il y a cette première bulle qui est la bulle d'intimité et qui varie d'une personne à l'autre de 15 cm à 46 cm. Mmh. Et lorsque quelqu'un s'approche de vous et qui rentre dans cette bulle, si cette personne n'a pas un degré... d'intimité avec vous, si ce n'est pas un conjoint, si ce n'est pas un enfant, si ce n'est pas un ami proche, etc., eh bien, c'est perçu comme quelque chose qui est agressif. Donc, venir comme ça proche de quelqu'un, ou même prendre quelqu'un par l'épaule, ou mettre sa main sur la personne, même si la personne vous sourit, il faut se dire que physiologiquement, il se passe quelque chose au niveau du rythme cardiaque, au niveau de sécrétion d'adrénaline, parce que c'est perçu comme étant soit une agression, soit une tentative d'approche sexuelle. C'est comme ça que notre cerveau et notre côté mais ancestral animal perçoit cette approche. Mmh. Donc c'est normal de se sentir agressé quand il y a cette approche. Donc une façon de conserver le bon contact socialement, en fait, c'est de garder ses distances.
Bon. Si vous le dites. Alors, vous allez nous parler des mains, les mains en réunion et en négociation autour d'une table.
Voilà. Donc, quand je dis garder un bon contact social, c'est de garder ses distances, c'est de ne pas se mettre dans des situations comme le décrit la personne. Oui, hein, oui. Encore une fois, sentir ça. Percevoir ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut apprendre, en fait, lorsqu'on est autour d'une table en réunion et qu'on voit, par exemple, un collègue qui a les avant-bras qui sont déposés sur la table. Oui, les avant-bras sont déposés sur la table. Et puis, il y a ses doigts qui sont entrecroisés.
Ah, ça, il y en a pas mal. Hein.
Ouais.
Ce sont les personnes plus âgées qui font ça. Ce sont des personnes matures. Non, ça, donc, c'est déjà un signe de maturité. Là, on est d'accord. En fait, je le fais souvent, non?
Eh bien,
regardez, je le suis en train de faire.
Là, ce que vous...
Je le fais souvent.
D'après les codes.
Qu'est-ce que je suis en train de faire, là?
Mais, oulala.
Attention à ce que vous allez dire. Mais je croise souvent les doigts, oui.
Mince, alors il faut que je change tout le monde. Non, mais...
Allez, dites.
Eh bien, donc, d'après
dites
les
tout,
codes,
hein, mais tout, hein.
En ne se basant que là-dessus, mais bon, il y a d'autres choses
au niveau de
où sont vos jambes par rapport à la chaise, etc. Si on ne se base que là-dessus... C'est plutôt l'attitude de quelqu'un qui serait dans une attitude négative.
Oh non, c'est pas mon cas.
Voilà.
C'est pas mon cas.
Mais il faut voir ce qui se passe au niveau du visage, il faut voir ce qui se passe au niveau de la posture sur la chaise. Est-ce que les jambes sont plutôt vers l'avant de la chaise, juste là, en équerre, ou est-ce qu'elles sont rentrées, vraiment cachées, en dessous du siège? Si elles sont vers l'avant, ben c'est un signe de je suis à l'aise, extraversion. Si les jambes sont bien d'équerre, mais je suis bien campée, je suis bien à ma place.
Je regarde. Elles sont en arrière, pas bon. Elles sont vers l'arrière. Mais en fait, je me positionne comme ça pour pas piquer du nez sur le micro, vous voyez.
Mais voilà. Mais donc tout ça est vraiment à prendre en considération, quoi. Il faut vraiment voir ce contexte. Si on dit regardez juste les jambes de Sylvie, ça va pas
sont
nous
croisés,
donner. De...
Regardez, ils sont croisés deux fois.
Ouh là là, quel repli.
Bon, ça. C'est un repli sur moi. Ben non, 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 on n'en est pas du tout. Non, non. Bon, finalement, on va changer de sujet. Voilà, il nous reste une petite heure. On va passer de la musique, puisque.
Mais comme quoi, remettons vraiment les choses dans leur contexte.
Mais voyez, voilà.
Vraiment remettre les choses dans leur contexte. Si on voit un collègue qui a les mains dans la nuque, les doigts entrecroisés dans la nuque, vous voyez, posture un peu plage avec les coudes écartés comme ça et qu'il est en
retrait. Toujours,
retrait.
Tu m'intéresses, quoi.
Exactement. Ça, c'est pff, tout ce que vous dites. Écoutez, oui, ça, oui. Je le sais déjà. Moi, j'ai pas besoin de ça, quoi.
Ouais.
Quelqu'un qui a un bic en bouche ou qui porte la branche de ses lunettes en bouche.
Ah.
Ouais.
J'en réfléchis.
Exactement. C'est quelqu'un qui prend une pause pour réfléchir. Alors, une autre posture, je vais faire de mon mieux pour la décrire. La personne est accoudée sur son... Elle a le menton qui est déposé dans la main. Elle est en appui, en fait, sur la paume de la main. Elle a le pouce qui vient juste là, en dessous de la mâchoire. Elle a les autres doigts qui sont repliés, excepté l'index qui pointe.
Parce que... Mais vu la position, j'en ai jamais vraiment croisé, hein. L'index qui pointe.
C'est juste être la mâchoire qui est déposée sur la paume de la main. En fait, elle est appuyée.
Ah oui,
mais tous les doigts ne sont pas repliés. Il y a juste
un doigt.
L'index, lui, est pointé.
Ah oui.
Et il vient vers le dessus de la joue.
Ah oui,
comme,
oui,
ça.
Oui, comme ça, c'est mieux. Oui.
Ça, c'est quelqu'un qui est en train de prendre une décision.
Ah.
Ça, c'est beaucoup observé en négociation commerciale. Juste avant qu'il y ait signature de contrat. Mais on remarque qu'il y a cette... cette posture qui est souvent engagée. Ce qui est éloquent aussi, c'est la position de la paume des mains.
Oui. C'est long. Sinon, on fait une petite pause et on y revient après. Hein.
On peut faire.
Ah
bah une
alors,
pause.
On fait une petite pause. 070 23 33 23. SMS 30 63. Je lis le message de Benoît de Bruxelles. Il nous dit bonjour Sylvie. J'ai eu l'occasion de faire 2 ans de langue de signes et aussi le non-verbal. Les mimiques sont très importantes afin de faire passer une émotion, par exemple. Nous dit Benoît de Bruxelles, donc il a eu l'occasion de faire 2 ans de langue de signes. Ah, le geste nous portera. Le non-verbal nous porte et nous portera tout cet été. C'est pour ça qu'on avait envie de pratiquer un peu le non-verbal aujourd'hui et de faire une émission sur le sujet pendant 2h30. 070 23 33 23, SMS 30 63 et les joueurs de poker dans tout ça. Parce que je sais que vous allez en parler, donc c'est quelque chose que j'ai une petite annotation que j'avais pris pour ne pas oublier d'en parler. Les joueurs de poker, fins observateurs des manifestations corporelles de leurs coéquipiers de table ou les joueurs de cartes en général, mais enfin on en parlera. Et puis il y a aussi ce petit exercice que vous allez nous faire pratiquer. Ce sera juste après 15h. Ça aussi, je ne voudrais pas oublier d'en parler. Marie-Pierre Preud'homme, praticienne en PNL, avec vos messages maintenant aussi. J'espère encore une fois que vous prendrez la parole parce qu'on en a, mais les personnes ne veulent pas communiquer sur ce non-verbal. 3063, si vous voulez donc ajouter des choses, vous aussi.
La vie du bon côté sur Vivacité.
Alors que je suis en train de mettre votre site internet sur notre page Facebook, hypnoseliège.com. C'est vrai qu'on n'a pas parlé d'hypnose, je n'ai pas encore cité le mot ici,
oui.
Mais c'est votre dada, quoi.
Oui.
C'est surtout ça.
Et là, en matière de, justement, vous me demandiez si j'utilisais le body language. Quand on fait une séance d'hypnothérapie, tout ce que la personne renvoie par son corps, c'est une mine d'informations, parce qu'il y a une fluctuation au niveau de rythme cardiaque, au niveau de la respiration, il y a des choses qui se passent au niveau de la coloration de la peau, etc., qui renseignent sur l'état hypnotique.
Et il y a des séances d'auto-hypnose qu'on peut télécharger.
Voilà,
sur votre site.
On peut pratiquer de chez soi. Mmh. Il y a aussi les méthodes pour mincir et pour se réconcilier avec la nourriture. Mais c'est aussi un autre langage du corps.
Oui,
en fait,
et c'est très important avant l'été. Vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, hypnoseliège.com, le site de Marie-Pierre Preud'homme, c'est à Esneu. Je suis en train de le mettre sur la page Facebook. Avant d'accueillir Yves au téléphone, la paume des mains. Parce que ça, voilà, ça parle à tout le monde, la façon dont on met la paume des mains.
Voilà, la paume des mains, en fait, si votre main est retournée et qu'on voit apparente, cette paume de main.
Et vous parlez quand on est à table, quand on est ou quand on donne encore la main.
Mais d'une façon générale.
En général.
Mais si vous regardez le mendiant, il est avec sa paume de main vers le haut. Il demande. Donc tout ce qui est paume de main vers le haut est plutôt signe de voilà, je suis ami, je suis dans la demande, voire même dans la soumission. Il y a cette paume qui est vers le haut qu'on peut retrouver dans différentes circonstances et qui pourrait indiquer que la personne est dans la sincérité. Maintenant, on parlera, si on a le temps, des signes du mensonge. Une personne qui ment et qui a les paumes de main dirigées vers le haut, il y a d'autres signes aussi qu'on pourra repérer chez la personne. Mais il paraît que c'est assez difficile de mentir et de garder les mains ouvertes avec les paumes vers le haut. Voilà.
Alors, donc quelqu'un, quand vous soupçonnez quelqu'un de mensonge, vous lui dites, redis-moi ce que tu viens de me dire en mettant tes mains avec les paumes vers le haut. C'est ça.
Je ne sais pas s'il faut faire ça, mais c'est un truc pour voir si quelqu'un ment en fait, c'est de lorsqu'il dit, mais là on n'est plus dans le langage corporel, mais c'est juste pour la petite parenthèse. Si quelqu'un vous raconte, bah, si à 5 heures j'étais là et puis j'ai fait ça à 6 heures. Et puis j'ai vu machin, etc. Et il vous cite comme ça tout ce qu'il a fait. Si la personne ne ment pas, vous pouvez lui demander, tu pourrais me dire à l'envers ce que tu viens de dire. Elle le fera vraiment très très facilement.
Commencez par la fin. Alors,
voilà, commencez par la fin. Par contre, quelqu'un qui ment n'a pas préparé son récit en se le répétant par la fin. Et donc là, il va avoir plus d'hésitation.
Enfin, vous étiez policière dans une autre vie, Pierre.
Oui, mais le métier de psychothérapeute, ce n'est que de la filature.
C'est un peu ça aussi. Yves, vous êtes à Saint-Guilain. Bonjour Yves. Alors vous dites...
Bonjour Sylvie.
Oui, d'accord. Allô. Mais il y a à prendre, il y a à boire et à manger dans tout ça, hein, Yves.
Oui.
C'est ça que vous voulez dire.
Ben oui, parce que quelque part, on est tous des êtres uniques, et ce qui est valable pour un n'est pas forcément valable pour l'autre. Et c'est un peu ça, hein, c'est...
Oui, oui,
c'est ça. Il y a les généralités, bien sûr, mais...
C'est pas une science exacte, hein, ça on l'a dit.
Non, loin de là,
Mais il y a des observations, de nombreuses observations qui ont été effectuées.
Et on a des bonnes ou des mauvaises intuitions aussi, bon, c'est un tout, quoi.
Vous fonctionnez à l'intuition, vous ?
Oui, quelque part, en général, la première, comme je dis souvent, la première impression qu'on a sur quelqu'un, elle est difficile à faire changer, quoi. En bien comme en mal, hein, quelque part.
Mais quand vous serrez la main de quelqu'un, Yves, vous...
Oui, là, je vois tout de suite quelque part à qui j'ai affaire, quoi. Ah. Une main molle ou une main, je peux pas dire un bras de fer, quoi, mais bon, ça donne déjà une indication.
Ouais, parce que vous en avez qui vous écrasent la main, heureusement.
Oui.
Ils sont très rares.
Mais... il y en a, c'est des mains, poignées toutes molles, quoi. Bon, l'idéal, c'est entre les deux, comme dans tout, quoi.
Hein. L'idéal, c'est entre les deux. C'est ça.
Bah oui.
J'aime bien ce que vous nous écrivez dans votre message par SMS. Nous ne sommes pas des pots de confiture qu'on étiquette selon les parfums.
Voilà, c'est un peu ça, oui.
J'aime bien.
J'ai un bon souvenir de vous, Sylvie, à vos débuts à la RTBF.
Ouf ! Alors, n'allez pas rechercher dans le passé, quand même. Vous m'avez connu tout petit.
Non, mais ça fait partie de la vie, hein, le passé, le présent et le futur.
C'est vrai.
C'est à l'occasion d'une Ducasse du Doudou. C'était un podium de variété sur la Grand Place de Mons. Et vous receviez Hervé Villard.
Oh mon Dieu ! Oui, ça fait très très longtemps.
Bon, dans les années 80.
Et alors, un petit peu plus tard, si vous voulez bien, un petit peu plus tard.
Oui, 80, allez.
Oui, mi-90.
Et alors, il ne vous entendait pas. Et alors, il vous disait, parlez plus fort. Vous vous souvenez ? C'était sur la place, la grande place.
Bien sûr, je m'en souviens. Bon, merci Yves. C'est un bon souvenir, mais voilà, si vous me demandez ma rencontre avec Hervé Villard, ben voilà, je l'ai fait une fois, c'est bon, c'est fait, quoi. Voilà, comme ça, c'est dit. 070 23 33 23, SMS 30 63, j'imagine, c'était drôle, ça. quand même, on est, c'est fou. Quelqu'un qui se souvient comme ça de cet épisode que je n'ai pas oublié d'ailleurs. Rien n'a été, rien n'est oublié dans des rencontres comme celle-là. Bon, on revient à notre langage du corps, le non-verbal qui est encore une fois représenté à 55% dans la communication. Donc 100% pour une communication soit bonne et établie, 100%, 7% dans le verbal, 38% dans le ton de la voix et 55% dans le non-verbal, ça c'est quand même assez fort. Venez nous dire si vous avez eu l'habitude de travailler avec des personnes voilà, qui ne possèdent pas le langage verbal, et on en a vu des messages arrivant jusqu'ici avec des personnes autistes notamment, avec des personnes qui ne s'expriment pas. Comment vous gérez et comment vous ressentez, vous, le non-verbal de ceux qui vous entourent? 3063 pour vos messages. Ou via la page Facebook aussi de l'émission, si vous voulez nous laisser un commentaire sur la page Vivacité, la vie du bon côté, où vous êtes actuellement 7886. Et 3063 pour vos messages, comme l'a fait Laurence. Laurence, psychologue, psychothérapeute et enseignante. Elle nous écrit, Laurence, en effet, Sylvie, les hommes vis-à-vis des femmes interprètent différemment les codes sociaux, comme une intimité sexuelle. Parlons de la culture chinoise, la distance personnelle et sociale est plus importante et le visage manifeste moins de mimiques faciales, ainsi que le corps se penchant discrètement vers son interlocuteur. C'est ce que nous dit Laurence, donc psychologue, psychothérapeute et enseignante. Vous venez de me dire quelque chose d'important aussi. C'est un homme qui maniait bien la canne. C'est un pionnier en matière de communication non verbale.
Oui, Charlie Chaplin.
Et oui, Charlie Chaplin. Pionnier en effet dans le sujet qui nous intéresse aujourd'hui.
La vie du bon côté avec Sylvie Honoré.
Et Marie-Pierre Preud'homme, praticienne en PNL, en thérapie brève, dont l'hypnose et l'EFT avec une orientation systémique. Tout ça, vous trouverez comme information sur son site internet, sur la page Facebook et même sa page Facebook qui sera en ligne sur la nôtre. Abid, bonjour.
Bonjour, bonjour.
Vous êtes à Andenne, Abid, pour le moment.
Oui, c'est ça, oui.
Question intéressante que vous posez, d'autant que Marie-Pierre vient de la lire en antenne. Elle dit, ah oui, ça, c'est un gros morceau. Elle parle pas de vous, Abid. Hein.
Elle parle
du sujet qu'elle va pouvoir développer par rapport à votre question.
Mais oui, mais alors, je me demandais, parce qu'en fait, je joue au poker, et je me rends compte que quand je joue parfois au poker, il y a certaines personnes qui arrivent à faire passer certains messages, alors que ce n'est pas du tout ce qu'ils sont vraiment, en fait. Hein. Donc, par exemple, le bluff, par exemple, le fait de contrôler, dire qu'ils sont un peu... qui sont cool, alors qu'au fond d'eux-mêmes, ils sont vraiment en train de bouillir, quoi. Donc, je me demandais si on arrivait vraiment à savoir contrôler son langage non-verbal.
Donc, on arrive à contrôler son langage non-verbal, oui et non. Je vais vous dire plutôt pourquoi je dis oui, pourquoi je dis non. Le non est que, en fait, pour arriver à le faire, il faut être très très fin et vraiment beaucoup s'exercer. Parce que si vous ne modifiez qu'une seule chose, eh bien, il va y avoir une perception d'incongruence de la part de vos interlocuteurs. Donc, si vous bluffez et que vous êtes la paume libre de la main vers le haut, donc dans cette attitude qui indique oui, je suis honnête, je dis la vérité, mais que par contre vous êtes en train d'amener la main vers le visage, vers la lèvre, ou alors de lever son col un peu comme si on voulait dégager l'espace pour le cou, là vous indiquez que vous êtes en train de mentir. Donc pour arriver à trafiquer entre guillemets son langage corporel, ça demande beaucoup d'entraînement et ce n'est pas du tout évident. Néanmoins, les joueurs de poker confirmés arrivent à le faire. Mais il y en a bon nombre qui jouent avec des lunettes, ça vous l'avez remarqué, avec une casquette aussi parmi les champions, bon. Pour vraiment être le plus d'apparence la plus neutre. Donc comment est-ce qu'ils vont travailler en fait au niveau de leur langage corporel? Eh bien simplement, on dit que le poker est un sport justement parce qu'ils vont s'entraîner et avoir une hygiène de vie vraiment irréprochable, pour pouvoir avoir l'air toujours en forme et avoir un bon contrôle des émotions et travailler au niveau d'une d'un faciès à la chinoise, à l'asiatique, où il n'y aura pas de passage d'expression, ou alors quand ils en font passer une, c'est une émotion qui est, enfin ce ne sera pas une vraie émotion, puisque une émotion c'est avant tout physiologique, mais ils vont provoquer un changement sur leur visage ou une attitude qui va faire croire que. Donc voilà pourquoi je vous dis oui et non. Donc au poker on parle des tells, hein, les tells, ce sont ces gestes, ces manifestations qui renseignent sur l'interlocuteur. Est-ce que vous savez, il y a quelques signes pour reconnaître un joueur de poker neuf dans le métier, si on peut dire, d'un joueur qui est aguerri? Qu'est-ce que vous connaissez comme signe?
Y en a qui montrent leurs mains.
Oui.
Souvent, donc ceux qui montent leurs mains en général, c'est que ce sont des débutants. Ou sinon, eux, ils parlent beaucoup.
Oui.
Je sais pas, oui, peut-être qu'il y a d'autres, il y a d'autres trucs que je ne sais pas.
Oui, il y a aussi un petit truc qui est que le joueur qui est là depuis peu a plutôt tendance à se jeter sur ses cartes pour les regarder.
Ah oui, oui, oui. Et c'est vrai que les professionnels attendent chaque fois leur tour avant de voir les cartes.
En fait, ils sont tout en retrait au début du jeu. Et ils sont en retrait, pourquoi? Mais pour être dans l'observation. Et donc, ils vont regarder, tiens, j'ai face à moi tel et tel type de joueurs. Ils ne vont pas s'engager, ils ne vont pas engager de jetons. Et ils vont observer leur adversaire. Et ça va leur donner des informations. Ils ne sont pas du tout dans l'empressement.
Oui.
Ils glanent de l'info. Et puis après, ils vont pouvoir ajuster. En fonction de ça. Il faut savoir qu'on est vraiment dans le bluff. On est dans ce qui est perceptible. Et donc, c'est vraiment le jeu du self-control, aux antipodes de ce qu'on pourrait imaginer de boire en même temps ou d'une vie qui n'est pas très saine. Si vraiment on veut aller loin dans ce jeu, c'est oui, plutôt même des pratiques comme la méditation, etc.
Hein. Nous, on fait ça... Que loisir, en fait.
Oui, mais c'est intéressant. Hein.
C'est quand même intéressant, c'est vrai.
Tout à fait, c'est intéressant. C'est merci, Abid, pour votre intervention. Vous jouez au poker, Marie-Pierre?
Je vais penser m'y mettre.
Parce que vous connaissez bien le sujet, apparemment. En tout cas, vous êtes bien parti pour bien débuter. Et le langage non verbal, le langage corporel. Vous m'avez dit, je ris parce que comme je ris beaucoup, vous m'avez dit, Sylvie, on va quand même dire quelque chose d'important. Comment savoir si quelqu'un rit vraiment?
Oui, mais vous riez pour du vrai. C'est pour ça que je vous apprécie
j'espère,
beaucoup.
Voilà, j'espère.
Le rire est vrai. En fait, si quelqu'un ne rit pas pour du vrai, il y a que sa bouche qui bouge. Et si la personne simule en fait un sourire, un rire, c'est ça. Donc il y a que sa bouche qui bouge, pardon. Mais si la personne est vraiment dans le rire, elle est sincèrement animée par ça.
Ouais.
Ses yeux rentrent dans le mouvement. Donc les yeux vont se plisser.
Tout bouge.
Oui, tout bouge.
Bon, d'accord. Donc quand vous racontez une blague, pour voir si personnes font pas semblant de rire, voilà. Si vous voyez, si la blague fait mouche, comme
oui,
on dit, c'est
oui,
que
oui.
Tout bouge.
Voilà,
tout rit dans le visage. Alors,
oui.
Position debout.
Alors, en position debout.
Corde à sauter. Position debout.
Qu'est-ce qu'on peut décoder, en fait, dans une position debout? Est-ce que vous avez déjà vu des personnes qui ont un bras derrière le dos et l'autre main qui vient derrière le dos et qui saisit?
Oui. Ça, c'est les personnes plus âgées aussi, non?
Mais...
Je fais des clichés, moi, aujourd'hui.
De toute façon, on est quand même en plein dedans. On ne fait que renforcer l'idée cliché. Donc, la personne qui a un bras derrière le dos et l'autre main qui vient saisir, soit au niveau du poignet, soit plus haut. En fait, la personne est dans le contrôle, elle se retient. Il y a quelque chose qui consciemment la rend nerveuse ou l'invite à se contenir. Et plus le bras, plus la main est haut, plus elle se contient.
Mais ça va, ça c'est une chose. Bah, on va se contenir jusqu'à tout à l'heure, si
on
vous voulez bien.
Oui.
Alors, avant de revenir dans le vif du sujet, en tout cas d'aborder l'un ou l'une ou l'autre chose, notamment la séduction, ça on en parlera dans quelques instants, notamment l'impact au niveau de nos comportements au volant. Ça aussi, c'est intéressant. Vous allez nous demander de faire un petit exercice.
Alors, ce que je voulais vous proposer, ce que j'avais envie de proposer aux auditeurs, c'est de faire une petite pratique de PNL, donc de programmation neurolinguistique,
oui.
où on va en fait entraîner sa neurologie à glisser vers un comportement qu'on aimerait adopter. Donc, l'idée, c'est de partir d'un comportement qu'on a déjà, ou un comportement qu'on a déjà eu dans le passé, et donc on a envie de reproduire ce comportement, de le retrouver ou peut-être de l'améliorer. Donc ça peut être, je ne sais pas moi, auparavant je savais me concentrer, j'étais beaucoup plus centrée pour préparer mes émissions, j'étais plus satisfaite de ma relation à la nourriture, je mangeais beaucoup plus lentement ou des choses comme ça.
D'accord.
Donc ce que je vais vous inviter à faire, c'est peut-être à vous de la maison vous installer confortablement et de laisser revenir comme ça un comportement que vous avez envie de retrouver, que vous avez envie d'améliorer. Voilà, ne cherchez pas trop loin. Et voilà, de simplement rester là avec l'idée de ce comportement. Et donc on va faire bouger les yeux dans trois directions, et en faisant bouger les yeux dans ces directions-là, bon, on va stimuler certaines zones du cerveau qui vont nous programmer à pouvoir se mettre en chemin vers ce comportement. Sylvie, vous avez votre comportement à améliorer.
Oui.
Voilà, que nous tairons.
Oui, madame.
Voilà. Et donc là, je vais vous inviter. Voilà, c'est peut-être plus facile avec les yeux ouverts, mais ça peut se faire aussi les yeux fermés. Dans un premier temps, d'amener les yeux en regardant en bas à gauche. Et en regardant en bas à gauche, peut-être vous pouvez mettre votre main pour bien maintenir le regard dans cette direction. Donc vous regardez en bas à gauche et en regardant là-bas, vous vous dites mentalement ce que vous avez envie de modifier. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que j'ai à changer pour améliorer ce comportement dans cette situation qui ne me convient pas pour le moment? Et c'est simplement se dire ça mentalement en gardant bien les yeux là-bas, en bas à gauche. Voilà, se le répéter, bien maintenir les yeux là-bas. Et puis, on va amener les yeux à l'opposé, en haut à droite.
Oui.
Et quand on est avec les yeux en haut à droite, on va se voir en train de réaliser ce comportement. Donc, bien maintenir les yeux là-bas, en haut à droite. On se voit en train de réaliser ce comportement. Et puis après, on va abaisser les yeux en bas à droite. Et là, on va se sentir en train de produire ce comportement. En train d'être vraiment acteur de ce comportement. Donc ça, c'est une petite pratique que j'ai fait vraiment que je vous ai résumée, mais voilà, j'espère que les auditeurs s'y seront prêtés.
Ils pourront le faire tout à l'heure chez eux.
Ils peuvent le refaire chez eux.
En bas à gauche, c'est
se dire,
penser. Oui, se dire, je change de comportement.
C'est plus que penser.
J'adopte ce comportement-là.
C'est être dans le dialogue interne et on se dit ce qu'on va changer.
Oui. Hein.
Et puis après, on va vraiment en diagonale, à l'opposé.
En haut à droite.
À droite. Et là, on se voit en train d'adopter ce comportement. Et puis après, on descend
En bas à droite.
En bas à droite.
Et
là-bas, on se sent. On se vit à travers tous les sens en train de vivre ça. Donc ça, c'est une petite pratique qu'on peut mettre en place pour modifier un comportement, en tout cas pour l'améliorer.
Super. Avant de passer à la séduction, parce que je vois une question de Steve par rapport à ce sujet-là, je vous ai coupé dans votre élan juste avant le flash d'information, Marie-Pierre, les attitudes debout. Vous en aviez donné une.
Oui,
avec
encore aussi cette attitude debout où la personne a les bras croisés. Si elle n'a pas froid ou s'il n'y a pas de raison autre d'avoir les bras croisés. Autre, je veux dire ergonomique. Tout à l'heure, quand on rigolait et que vous me disiez « mais oui, je ne suis pas comme ça, je suis comme ça », mais il y avait des raisons ergonomiques à votre position. Et
c'est
donc,
ça.
Il faut toujours bien revenir dans le contexte. Donc si on regarde quelqu'un qui est en position debout Et qui a les bras croisés, effectivement, il sera plus dans une idée de négation, de repli, pas quelque chose qui est en fait dans l'affirmation. Mm-hmm. Et là, il faudra peut-être plus se méfier si la personne a un pouce saillant, un pouce qui vient comme ça se mettre au-dessus de son bras croisé. Là, on est dans quelque chose qui est proche de l'arrogance, très très égotique, voilà. Mmh. Maintenant, peut-être que si elle a le pouce qui est cassé, la pauvre a son pouce bloqué.
Oui, mais ça, c'est le cas extrême. Je lis le message d'Anne-Carole sur la page Facebook. La manière dont vous regarde une personne et son comportement quand elle vous parle sont très importants. Je m'en sers au quotidien, dit Anne-Carole. C'est pour cela que je préfère rencontrer mes clients chez eux, car ils se sentent plus à l'aise et leurs petites manies sont plus visibles. Voilà le message d'Anne-Carole. Et puisqu'on parle du langage non-verbal, je pense que c'est quelqu'un qui a fait passer pas mal de choses dans son non-verbal, côté langage non-verbal. Et c'est sans doute aussi ce qui l'a hissé à la première place de The Voice Belgique, sans parler de sa voix, bien entendu. La nuit, je mens. Ce titre se trouve sur la double compilation Le Beau Vélo de Ravel, 15 ans en vente partout. Plus d'informations sur le site de Vivacité. Et puisqu'on reparle encore une fois du Beau Vélo, c'est samedi, la première à La Palme. Vous trouverez tous les renseignements pratiques sur notre page vivacité.be. Le langage non verbal. Je lis la question de Steve qui ne souhaite pas la poser à l'antenne, mais je pense qu'elle veut tout dire. Steve, bonjour, comment voir qu'une personne est attirée vers quelqu'un ou par quelqu'un, demande Steve. Marie-Pierre.
Alors, il y a beaucoup à dire au niveau de tout ce qui est séduction. C'est une des grandes utilisations du body language, cet aspect séduction. Alors, comment voir, comment est attiré, si quelqu'un est attiré, au niveau de la femme, en fait, elle sera plus en train de jouer avec ses cheveux, elle fera des choses avec ses cheveux. Vous jouez pas souvent avec vos cheveux.
Non, c'est vrai. Donc,
on verra qu'elle porte ses doigts, ses cheveux, qu'elle les fait rouler entre ses doigts, qu'elle amène les cheveux proche de la bouche. Ça, ce sont des signes.
Ça, j'avais un petit peu de mal. C'est un petit peu court, vous voyez.
Ça, ce sont des signes qui indiquent qu'une femme est réceptive à la séduction et plus si affinité. Donc, on verra aussi qu'elle sera en train d'amplifier les mouvements corporels, qu'elle sera assez bruyante, qu'elle rira de façon plutôt démonstrative, qu'elle va exagérer les mouvements du corps, exagérer les mouvements du visage. Voilà, ça fait partie des grands, grands signes. Si Steve n'ose pas le demander, et qu'il se demande comment séduire et comment aller plus loin dans la séduction avec le body language, eh bien, si vous en êtes toujours au stade de la poignée de main, un des trucs pour séduire, c'est de garder la main de la personne dans la vôtre et de la serrer en lui parlant.
Comme les amoureux de Péné, quoi, c'est ça.
C'est ça,
on dit pas ça, oui.
À part qu'on serre la main, on est vraiment dans la poignée de main. Et donc le body language, on conseillerait de rester à serrer cette main plus longuement, à regarder la personne, à lui parler pendant qu'on serre la main, et de ne pas quitter la main comme si on fouillait la main, mais de passer vraiment de l'autre côté. Voilà, ça c'est
de l'autre côté de la main.
De l'autre côté de la main, c'est-à-dire pas laisser filer votre main, pas avoir une main qui donne l'impression de fuir, mais c'est vraiment donner l'impression de quitter par l'autre côté. Alors aussi une indication, c'est si la femme ou si l'homme d'ailleurs a les mains sur les hanches, ça veut dire je suis à l'aise. Par contre, si les mains sont déposées sur les fesses, sur ses fesses à soi, hein, ça c'est clairement un signe de demande de sexe, de disponibilité sexuelle. Voilà. Alors,
on aurait pu commencer par là, l'émission, finalement. Pierre. On a gardé le meilleur pour la fin, c'est toujours ça.
Alors aussi, deux, trois petits trucs pour pouvoir séduire au niveau du langage du corps. c'est de ne pas être en pur face à face, mais d'être simplement avec, être très très légèrement de côté et de regarder la personne et puis soups de quitter son regard et puis de revenir. Quand vous quittez son regard, c'est un petit peu comme si c'est perçu comme oh je t'abandonne, ouh je viens te rechercher, quoi. Voilà. Et aussi de sortir de la bulle qui est produite par l'intimité des deux personnes et de montrer quelque chose à l'extérieur pour que ensemble, nous regardions dans la même direction.
Oh, le bel oiseau qui vient de s'envoler.
Exactement.
C'est très romantique. Hein.
Se l'est. Et s'est fondé.
Voilà. Regardons dans la même direction ce bel oiseau qui vient de s'envoler.
Tout à fait. Ouais. Et alors, au niveau vraiment purement postural, quand on est dans une soirée et qu'on a envie d'être avenant et qu'on a envie de s'ouvrir à séduire et à être séduit, bien, c'est une posture qui donne une sensation qu'on est dans la suite. Donc être bien droit, les épaules...
La coupe de champagne dans la
relâchée.
Main.
Ça et donc on la tient à combien de mains?
À deux mains?
Non,
à une main. Ah mais non, on ne peut pas.
Voilà, donc c'est vraiment...
On ne peut pas, sinon c'est un manque de confiance en soi.
Exactement,
c'est ça, hein,
exactement. Ouais. Exactement. Donc, c'est pas que je prône la cigarette, mais c'est pour celui qui fume, s'il a dans la même main et la coupe et la cigarette, il assure.
Il assure, ah oui. Voilà. Ah oui, bien sûr. Si on résume. Bon, dans quelques instants, et on terminera peut-être par là, sauf si vous voulez intervenir, 3063 pour vos messages, au niveau du comportement au volant, le non-verbal au niveau de nos comportements au volant, ce sera d'ici quelques instants. Marie-Pierre Preud'homme est notre invitée aujourd'hui, sa page Facebook est sur la nôtre, Vivacité, la vie du bon côté, son site internet aussi. Marie-Pierre, je rappelle que vous êtes praticienne en PNL, vous êtes aussi praticienne en thérapie brève, dont l'hypnose et l'EFT avec une orientation systémique. Si on revient à ces zones de confort. Enfin, zone de confort et les bulles. C'est ce que, hein, notion, pas les zones de confort. La notion de bulle et la notion de zone. Voilà.
C'est ça.
Et par rapport à nos comportements au volant.
Oui.
Vous vouliez faire une petite parenthèse sur ça,
oui,
parce
c'est
que ça intéresse pas mal de monde.
En fait, donc notre zone d'intimité, nous avons différentes bulles. Hein, donc on a une zone d'intimité, puis un peu plus loin une zone personnelle, puis une zone sociale, et puis une zone publique. À chaque fois, ce sont des distances qui varient d'une personne à l'autre. Et donc notre bulle, quand on parle de notre bulle, on parle souvent de notre zone d'intimité, en fait. Elle l'est aussi là lorsque nous sommes dans notre voiture. Et donc notre voiture, elle est perçue, nous la percevons un peu comme un petit cocon. C'est une extension de soi. Et donc quand on est dans notre voiture, notre bulle, la façon de percevoir notre bulle d'intimité peut être multipliée par 10. Et donc, ce qui veut dire que l'impact que ça a, c'est qu'on peut se retrouver à avoir des comportements très très agressifs en voiture, alors que, en fait, on ne l'est pas. Donc, quelqu'un qui vous coupe la priorité.
Ça, c'est important ce que vous dites là.
Et qui vient, eh bien, qui est dans cette zone, si vous avez une zone d'intimité qui est, je ne sais pas moi, de 15 cm ou de 46 cm, vous faites x10 ou vous faites x20, ça c'est votre zone perçu de bulles en voiture, quelqu'un qui vient, qui vous coupe la route, c'est exactement la même chose que si quelqu'un vient près de vous, s'approche de vous et rentre en contact avec votre visage. L'impact physiologique est exactement le même. Donc ça veut dire qu'il y a une décharge d'adrénaline, il y a une modification du rythme cardiaque et il y a une sensation d'agression. Et donc c'est ça qui explique que certaines personnes, si on leur coupe la route, vont être saisis par ça comme vraiment agressif. On veut ma peau quelque part, et cela c'est l'animal qui est réveillé, et ça peut aller jusqu'à sortir de la voiture et vouloir régler ses comptes avec
ça
les mains.
Ça s'explique comme ça. Quoi.
Ça s'explique comme ça. Alors qu'on peut être courtois en voiture et que ça peut se produire.
Oui. C'est intéressant. Jacques, bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour Jacques.
Comprenez ça, Jacques?
Oui, tout à fait. Moi, en tant que routier, je comprends tout à fait. C'est vrai que quand on nous coupe la bulle, on devient même agressif verbalement dans le camion.
Eh ben voilà. Quand on ne peut pas couper la bulle à Jacques.
Là, pour le moment, on peut. Il n'y a pas de problème.
Il faut le savoir. Qu'est-ce que vous voulez dire par rapport au sujet, Jacques?
Moi, je voulais dire, parce que parmi ce sujet, qu'il y a d'autres façons de... Sur le mensonge, donc les mains, les paumes vers le haut, ça je connaissais, il n'y a aucun problème.
Oui.
Mais il y a d'autres versions, c'est-à-dire que quand il y a des personnes qui mentent, ils ont fort tendance à se gratter la pointe du nez, par exemple, ou alors l'oreille, ou se tirer l'autre de l'oreille, parce qu'ils font un mensonge, ils disent un mensonge, et c'est instinctif, on se gratte quelque chose, l'oreille, les cheveux par exemple, et la pointe du nez.
Oui, j'avais déjà entendu parler de ça.
Et, on se gratte. Par contre, moi j'ai un ami qui lui, quand on lui parle de quelqu'un, un jour il en a vraiment marre, il dit écoutez maintenant c'est terminé, je ne vais plus laisser passer mes émotions,
oui.
Il prend sa main du front vers le menton, et à partir de ce moment-là, c'est vraiment comme s'il avait mis un masque et on ne sait plus rien voir de son comportement, de ses réactions.
Vous le saviez ça, Marie-Pierre ?
Mais je ne connais pas l'ami de Jacques.
Mais c'est ce geste-là.
Mais il y a un geste en fait au niveau du mensonge. Donc c'est l'inverse de ce que Jacques a dit. Les paumes vers le haut, c'est qu'on est vraiment dans la vérité.
Ah oui, non, c'est oui.
Donc
c'est...
si vous dites à votre conjoint où étais-tu et que il cache ses mains, que ses mains passent derrière son dos et qui fait ça pour vous donner la réponse, c'est quand même indicateur d'un mensonge. Effectivement, ramener les mains au visage, c'est indicateur du mensonge. Plus on est jeune, au plus ce sera visible. Donc un enfant, il va ramener ses deux mains, c'est comme s'il disait et qu'il veut cacher sa bouche avec ses deux mains.
Ouais.
Un ado, ben, ce sera plus deux ou trois doigts qui viendront au-dessus de la lèvre. Et un adulte, ce sera plutôt un doigt qui viendra. C'est chaque fois de plus en plus discret dans la façon de le montrer.
Merci Marie-Pierre Prédhomme. Vraiment, on a fait le tour du sujet. On a bien fait d'avoir une heure en plus aujourd'hui.
C'était
parce qu'un
bien.
Sujet comme ça, ouais, en 1h30, on aurait dû résumer. Voilà.
Oui.
Et là, on a pris le temps d'expliquer tout ça. Si vous voulez réécouter l'émission, c'est possible. Entrer en contact avec Marie-Pierre, c'est possible aussi. Tout ça se passe sur le site ou sur la page Facebook. Ne bougez pas. Aller-retour, c'est maintenant.
Retrouvez tous vos programmes sur www.vivacité.be.